Alors ce matin, ce que je voudrais vous partager, c'est que nous, on doit garder la vision de qui est notre Dieu, justement. Il y avait deux ouvriers qui étaient sur le bord du chemin, et il y a un homme qui les interpelle et puis qui leur dit, mais vous, qu'est-ce que vous faites? Alors le premier se lève et puis il dit, moi, ben, tu vois ce caillou-là, je le taille en rectangle, en cube, et voilà, c'est mon travail. Et puis le deuxième, et toi alors, qu'est-ce que tu fais? Oh, ben moi, je fais partie des constructeurs de la cathédrale à côté, et mon travail, c'est de leur fournir la matière première. Donc, je taille des pierres avec excellence, parce que je sais qu'en taillant ces pierres de cette manière-là, la cathédrale qui va être construite, elle va être magnifique, et moi, j'irai voir ce que j'ai fait. Et il y avait deux manières de voir le même travail. Un où c'était ardu, aride, sans vision, et l'autre c'était la même chose, mais il avait la perspective de travailler dans une équipe de vainqueurs où il voyait la réalisation de ce que lui faisait, qui était un accomplissement qui allait porter un témoignage et une gloire. Et de la même manière, nous qui sommes chrétiens, il y a deux manières de se considérer comme chrétiens. Soit c'est je suis sauvé comme au travers du feu et je suis un pécheur sauvé, ou soit j'ai vraiment réalisé la puissance de l'amour de Jésus qui m'a arraché des ténèbres et maintenant je suis dans une équipe de vainqueurs et je marche dans la lumière pour apporter la lumière et j'ai autorité de la part de Jésus au nom de Jésus. J'ai un héritage parce que je suis devenu fils ou fille de Dieu et j'ai vraiment la réalité d'une bénédiction que je peux communiquer. Je ne suis pas un vaincu, je suis un vainqueur. Amen. Il faut m'aider un peu, hein? D'accord? Non, non, ça va, ça va. Mais j'aimerais bien que vous disiez avec moi, je ne suis pas un vaincu, je suis un vainqueur. Dans le nom de Jésus. Amen. C'est pas par ma force. Vous pouvez dire, c'est pas par ma force. C'est pas par ma puissance, c'est par l'Esprit de Dieu. Alors tu tournes vers ton voisin, puis tu lui dis, mais l'Esprit de Dieu habite en toi. Alors je vais vous lire un premier passage et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de la Genèse. Au chapitre 28, et on va prendre le texte à partir du verset 10, Genèse 28, verset 10. C'est un épisode de la vie de Jacob, qui n'était pas à l'époque très glorieux, puisqu'il fuyait la colère de son frère. Et il allait se réfugier chez son oncle et puis aussi trouver une épouse. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet. Et il se coucha dans ce lieu-là et il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. » Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. » Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Amen. J'aime beaucoup ce passage. Parce que dans ce passage, il y a plein de paroles qu'on a chantées déjà, et on pourrait relire, eh bien, tout simplement, « Je ne t'abandonnerai pas, je serai avec toi partout où tu iras. » Et ce sont des paroles qu'on a besoin constamment d'entendre pour nos vies. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez les recevoir aujourd'hui dans votre cœur, tout comme moi, parce que quand je vous prêche à vous, c'est à moi que je prêche d'abord. Je ne t'abandonnerai pas, je suis avec toi chaque jour. Et ça, c'est une parole de Jésus. Alors, ce que je veux partager avec vous, c'est que Dieu est souverain et qui veut ouvrir, je dirais, notre cœur à la dimension de son amour. La première chose, c'est que Dieu ne nous a jamais abandonnés. Et j'aime bien le rêve que là, Jacob y fait, il voit une échelle qui descend du ciel et qui arrive sur la terre. Pourtant, l'homme avait péché, il était séparé de Dieu, le péché avait fait une profonde scission dans la communication entre Dieu et l'homme. Et là, qu'est-ce que Jacob y voit ? Il voit du haut des cieux une échelle qui descend jusqu'à la terre avec des anges qui montent et qui descendent. Dieu n'a pas abandonné son dessein pour l'humanité et pour les hommes, et Dieu n'a jamais abandonné son dessein pour ta vie. Et j'aimerais qu'on le dise. Dieu n'a jamais abandonné son projet pour ma vie. Amen. Il faut qu'on s'approprie ces paroles-là. Dieu a été capable de montrer à Jacob une échelle qui descendait des cieux sur la terre. Ça voulait dire qu'il y avait comme une porte ouverte des cieux et il y avait un mouvement des anges qui montaient, qui descendaient, qui prenaient ce qui est dans les cieux, qui l'amenaient sur la terre, qui prenaient ce qui était de la terre, qui l'amenaient dans les cieux. Il y avait un courant de vie. Et Dieu n'a jamais abandonné son projet, si bien qu'il a fini par nous envoyer son propre Fils, Jésus-Christ, qui s'est fait homme, qui a abandonné la gloire qu'il avait dans les cieux pour venir sur la terre, prendre notre condition d'homme et amener le témoignage du pardon de Dieu en portant même nos péchés à la croix. Il n'y avait plus besoin d'une échelle, il y avait la présence même de Dieu qui est descendue sur terre. Mais là, Jacob, il voit cette échelle, et qu'est-ce qui se passe? Il comprend que Dieu n'a pas abandonné l'œuvre de sa création, qu'il a ouvert un passage et qu'il continue de bénir. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans un passage dans Colossiens, au chapitre 1, et je vous invite à ouvrir vos paroles aussi dans Colossiens et à lire les versets 16 à 20. Alors c'est... Je vais vous lire. « Car en Jésus ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, donc par Jésus, par le sang de la croix. Dieu a réconcilié tout ce qu'il y avait dans les cieux et sur la terre par la croix en Jésus-Christ. Et c'est déjà ce que Jacob voit prophétiquement dans cette échelle qui descend des cieux et qui touche la terre. La deuxième chose que Jacob comprend, c'est que Dieu est à l'action. Et j'aime bien savoir que mon Dieu, il est en mouvement et qu'il est à l'action. Alors c'est vrai que Dieu agit au travers de nos vies et au travers de nous. Mais Dieu ne nous laisse pas. Les anges montent et descendent le long de l'échelle. Il y a un mouvement, il y a des échanges, il y a le travail d'une armée spirituelle. Et l'apôtre Paul, quelque part dans ses épîtres, il va nous dire que les anges sont des esprits pour le service des saints. Et je me rappelle une petite histoire qui m'a beaucoup marqué parce que je suis un fervent lecteur de la revue pour enfants Tournesol. Et il y avait un petit témoignage véridique d'infirmières qui travaillaient en Thaïlande. Et ces infirmières avaient dû passer une nuit en brousse parce qu'elles n'avaient pas réussi à joindre le dispensaire vers lequel elles se rendaient. Et en fin de compte, c'était vraiment dangereux de rester en brousse parce qu'il pouvait y avoir toutes sortes d'animaux sauvages. Elles ont dressé leur campement et puis pour finir, elles ont passé une nuit agréable. Et le lendemain matin, elles sont réveillées, elles ont repris leur vélo, elles sont arrivées au dispensaire. Et là, il y a un homme qui arrive au milieu des patients et qui vient les trouver et qui leur demande de prier pour lui. Il dit, j'ai besoin de trouver le Dieu que vous connaissez. Alors, elles étaient toutes étonnées. Et puis, elles ont dit, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui vous pousse à nous demander cette prière ? Il dit, la nuit dernière, j'étais dans la brousse avec 12 ou 13 compagnons. On était là et on voulait vous dépouiller. On voulait prendre tous vos biens. Mais au moment où on s'est approché de vous, pour vous dépouiller, eh bien, il y a 12 soldats qui se sont levés devant nous, qui étaient des géants et qui étaient vêtus d'une armure et d'une grande épée. Et ils nous ont terrorisés, on a fui. Et voilà, moi j'ai compris qu'il y avait quelque chose de surnaturel et c'était votre Dieu qui vous a protégé. Et la chose étonnante, c'est que ces infirmières, quelques jours après, elles ont reçu un coup de téléphone de leur église, d'un responsable de groupe de prière qui disait « Mais écoutez, est-ce qu'il ne s'est pas passé quelque chose telle nuit ? Parce que vraiment, avec le groupe de prière, on a eu à cœur de prier pour vous toute la nuit, pour votre protection. » Et alors, elles ont dit « Ben oui, ça correspond à la nuit qu'on a passée en brousse. » Et le gars, il a dit « Mais nous, on était 12 dans notre groupe de prière. » Et il y avait comme par hasard 12 soldats qui ont campé autour d'elle. La protection de Dieu, les anges de Dieu existent bien. Et il y a un mouvement de Dieu qui se fait. Et quand on demande une prière pour Doria, eh bien, il y a un combat spirituel qui se passe. Il y a des choses qui se passent que nos yeux ne peuvent pas percevoir. Mais si on tient ferme dans la foi, si on prend position et on prend autorité, si on persévère dans la prière, eh bien, il y a un renversement de puissance. Dieu fait éclater sa victoire. Le mouvement de Dieu va nous emmener dans la victoire. La troisième chose qu'on peut voir dans ce passage, donc Dieu n'a pas abandonné, Dieu agit, eh bien, Dieu est le garant. Il promet et ses promesses s'accomplissent. Il est celui qui est au-dessus de l'échelle. C'est vraiment intéressant de voir ce qui se passe. Les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle, et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, Dieu est celui qui est le maître d'œuvre. Il est le Père très saint. Il est celui qui s'engage. Il a un regard favorable sur la terre. Ses yeux voient toutes choses. Et ce n'est pas un regard de jugement, de terreur, c'est un regard d'amour pour nous amener à la perfection, pour nous corriger, pour nous reprendre, si on a besoin d'être repris, si on a besoin d'être corrigé. Et il veut se mettre en place en notre faveur. Et il garantit. C'est lui qui organise et qui ordonne, et il parle. Il veut se révéler. Et que nous est-il dit de Jésus ? Il est la parole vivante. Il est la parole faite chair. Quand on lit l'évangile de Jean, on voit que Jésus est cette parole qui nous a été donnée. En fin de compte, il y a quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est que il parle et il donne à Jacob des directives pour sa vie. Il rappelle sur Jacob les promesses de Dieu. Et je suis sûr que chacun de vous, vous avez reçu des promesses pour vos vies. Et des fois, les promesses, on les met un peu de côté parce qu'on est découragé ou on est dans la confusion ou on est triste parce qu'il y a eu des événements qui nous ont attristés ou alors on est simplement dans une routine chrétienne. Et la routine chrétienne, je vais au culte, je vais à la réunion de prière, je fais mon devoir, mais demain je vais au boulot. Voilà, il y a une espèce d'habitude. Il faut sortir de cette habitude et simplement remettre notre cœur en phase avec les promesses que Dieu nous a données. Alors, qui a reçu des promesses ici ? Ouais, vous êtes vachement timide dans cette église. Qui a reçu des promesses ? Moi, j'en ai plein. Eh bien, ces promesses-là, elles sont vivantes en toi. Et comme l'apôtre Paul le disait à Timothée maintenant, ne sois pas timide, ravive les dons, les promesses que Dieu a faites, parce que ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse que Dieu t'a donné. Amen. Est-ce que ce n'est pas un esprit de force? Alors que le faible dise. Que le faible dise.
Je suis fort.
Bah, dis donc, c'est pas une grande force, ça. Que le faible dise.
Je suis fort.
Amen. Vous croyez que si votre chien, il se balade comme ça un peu partout dans la maison, puis vous lui dites, couchez, toutou, il va se coucher. Couchez. Voilà. Et il faut que vous mettiez de la vigueur dans votre confession. C'est pas la force de votre voix qui va faire quelque chose, c'est la force de votre conviction. C'est la force de l'Esprit de Dieu qui veut habiter cette conviction en vous, qui va vous donner de l'autorité, qui va vous donner de la puissance. C'est le Saint-Esprit. Alors tout ça, c'est le chemin de Dieu pour vous. Dieu vous a pas abandonné, il agit en votre faveur, il croit en vous, il est une garantie, il veut parler pour vous conduire, vous consoler, vous révéler, mais il y a aussi votre part à vous, ce que vous devez faire. Et qu'est-ce que Jacob fait ? Il fait plein de choses qui sont vraiment intéressantes. Et Jacob, il s'éveille et puis il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Il dit, c'est un lieu redoutable, c'est la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et j'aime bien que vous commenciez à comprendre que l'église que vous formez ici, c'est une porte du ciel. Vous êtes déjà venu ici dans ce lieu en disant, je vais me retrouver avec mes frères. Et là, hop, il y a une porte du ciel qui est ouverte. Je vais pouvoir vivre une réelle onction de bénédiction. Et pourquoi ça ?
parce qu'il est tout pour défaire de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. Amen. Je suis tout seul, une petite lucarne, je suis en église, c'est une fenêtre des cieux qui est vraiment ouverte et Dieu envoie une bénédiction. Quand j'étais drogué, mon père, il était découragé. Et il a été à une convention en Suisse, et pendant que tout le monde s'extasiait, priait, lui, il pleurait. Il pleurait parce qu'il pensait à moi qui était dans la drogue. Et à un moment, le pasteur en charge de la réunion, il en a eu marre. Il lui a dit, mais attends, tout le monde rigole, toi tu pleures. Allez, viens là, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Il a dit, mon fils se drogue. Et cet homme de Dieu, c'était Maurice Ray, il a pris autorité. Il a dit, au nom de Jésus, maintenant, je prends autorité sur les puissances de mort qui sont sur ce jeune homme. Et je les lis. Et il s'est passé quelque chose d'étonnant. Je venais d'acheter, je crois, 500 grammes d'herbe. Et à ce moment-là, dans ma vie, j'ai été comme dégoûté de la drogue. J'ai eu comme une révélation qui est venue sur ma vie, où je me suis dit, mais je suis comme quelqu'un qui est lié par l'alcool. Je ne peux vivre heureux qu'au travers de la drogue. C'est pas juste. C'est pas normal. Et pendant que mes copains faisaient la fête, moi, j'ai pas touché à un gramme d'herbe. Et puis, à l'époque, je commençais à prendre des stupéfiants un peu plus forts. Je commençais à manger de l'opium. Et de la même manière, il y a eu une saisie d'opium à Paris. Je n'ai pu trouver un gramme d'opium malgré tous mes efforts. Et 10 jours après, je faisais une magnifique rencontre avec Jésus-Christ. Et je me convertissais, et ma vie a changé. Ma vie a été délivrée. Il y a eu des combats après. Il y a eu des tentations. Mais Dieu m'a complètement changé. C'est ici la porte du ciel. Il y a une autorité. La chose que Jacob fait, quand il voit ça, c'est qu'il prend la pierre, et puis, il verse de l'huile sur la pierre en disant, j'appelle ce lieu Bethel. Et Bethel, ça veut dire maison de Dieu. Amen. Ça fait du bien. Et avant, le lieu, il s'appelait Luz. Ici, les murs de cette église, c'est rien. L'église, c'est vous. D'accord, on est d'accord. Mais les murs de cette maison, ça représente une ambassade. Vous savez, quand on voit ambassade, on voit ça dans les films. Hein. Quand les espions sont poursuivis, ils se réfugient dans l'ambassade. Sauvés. Maison. Hein? Les héros sont sauvés quand ils arrivent enfin dans l'ambassade. Parce que c'est un terrain qui est dédié à la nation. Vous pouvez être en Afghanistan, l'ambassade des États-Unis, ça sera le terrain des États-Unis. L'ambassade de France, le terrain de la France. L'Église, c'est l'ambassade de Jésus-Christ, c'est le terrain de Dieu. Et les murs qui sont là n'ont rien de saint, mais ils représentent un témoignage sur lequel est écrit « c'est l'ambassade de Jésus-Christ ». Et dans la ville, il y a besoin d'ambassade. Il y a besoin qu'on voie là dehors. Ici, c'est une église. Et il y a besoin de ce témoignage-là. Tout comme vous êtes l'église de Jésus-Christ, il y a besoin d'églises, de constructions, qui sont des lieux dédiés à l'Éternel. On est parti l'été dernier avec des chrétiens calédoniens. Et on a été à Bellevue faire de l'évangélisation. Avant qu'on arrive sur la place de Bellevue, avant qu'on ait ouvert la bouche, on est passé au milieu d'un groupe de jeunes arabes qui étaient devant un café. Ils nous ont arrêtés. Ils ont dit, ici, c'est la terre de l'islam. Vous n'avez rien à y faire. Ils ne savaient même pas qu'on était chrétiens. Mais spirituellement, ils savaient que nous avions apporté un témoignage chrétien. Eh bien, on ne s'est pas dégonflé. On a dit, ça ne fait rien, on va quand même chanter. Parce que, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, cette terre appartient à Jésus-Christ.
et nous la revendiquons comme une terre pour Jésus-Christ. Et on ne va pas se laisser monter sur les pieds. Alors c'est vrai qu'il y a eu un climat de tension entre les deux groupes, si bien qu'à un moment il y a un quad qui est venu sillonner entre les danseurs, mais on a proclamé ce que nous avions à proclamer. Ne nous laissons pas intimider par l'ennemi. Faisons ce que nous avons à faire. N'allons pas non plus au-delà de ce que Dieu nous demande. Restons dans la sagesse de Dieu. Mais on a proclamé que c'était vraiment le terrain de Dieu. Et l'appartenance de cette terre est à Dieu et à Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Et qu'est-ce qu'il a fait, notre ami Jacob ? Il a pris l'huile, il l'a versée sur la pierre, et l'huile, c'est le parfum d'adoration, c'est le parfum de grâce, c'est le parfum de prière, c'est le parfum de reconnaissance. Et quand vous louez le Seigneur, amen, il y a un parfum qui monte direct au ciel. Est-ce que vous en êtes conscient ? Il y a quelque chose qui se fait. Des cieux descend la bénédiction. Vous, vous faites monter votre reconnaissance à Dieu et votre adoration. Il y a un échange entre les cieux et la terre. C'est exactement cette place forte que Jacob voit. C'est exactement la mission que Jésus-Christ est venu accomplir, de réconcilier toutes choses, celles qui sont sur la terre et celles qui sont dans les cieux. Et nous avons une autorité qui nous est déléguée. Et Jacob, il verse l'huile et il dit, ce lieu, on va l'appeler comment ? On va l'appeler Bethel, maison de Dieu. Alors, je vais conclure. Il donne la dîme à Dieu. Alors ça, la dîme, chacun fait en sa conscience. Mais dans l'Ancien Testament, il est question de dîme. Dans le Nouveau Testament, il est question de 100%. Toute ma vie, pas seulement la dîme. Hein? Ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. Alors, il y a plein de choses que je voudrais dire, mais le temps est raccourci. Donc, je vais m'arrêter là. Ce que j'aimerais vous encourager à vivre, c'est que vous puissiez percevoir que vous êtes vraiment une autorité en tant qu'Église. Vous avez vraiment un libre accès dans les cieux. Quand vous priez les uns pour les autres, il y a une parole de vie qui vient sur vos vies, qui vient au travers de vos vies, qui a autorité sur la puissance de l'ennemi. Il y a vraiment un parfum qui se répand. Il y a vraiment une action de Dieu en action qui se met en route. Et vous pouvez donner et prendre possession des lieux dans lesquels vous êtes. Le lieu du travail, le lieu du témoignage, le lieu de votre quartier où vous habitez. Et Dieu vous appelle à être des familles, des foyers, des hommes, des femmes forts qui ne vous laissez pas monter sur les pieds par le découragement. Jacob, quand il a cette vision, il est en fuite. Il est en transit, il est tout seul, mais Dieu vient l'encourager. Et il ne perd pas la vision. Dieu lui rappelle les promesses qu'il avait faites même à son père, au père Abraham. Il dit, voilà, tu vas devenir aussi, de ta descendance va venir une multitude. Les nations seront bénies. Et toutes ces choses, Dieu veut les faire avec chacun d'entre nous. Nous avons une destinée qui est dans les mains de Dieu, mais c'est à nous de travailler avec le Saint-Esprit pour que cette destinée s'accomplisse. Parce qu'en dernier lieu, c'est la conclusion, notre cœur est l'endroit où Dieu a fait son habitation. Notre esprit, son Saint-Esprit est venu dans notre esprit. Il a fait de nous une habitation de Dieu vivant en nous. Et on peut être comme cet ami africain qui parle à son chirurgien. Attention, Ah, tu touches le temple du Saint-Esprit. Mais quelque part, je dis ça en rigolant, mais vous avez l'autorité du nom de Jésus. Il faut simplement que le Seigneur réveille, et quand je dis réveille nos cœurs, nous donne la révélation de cette réalité spirituelle que Jacob a vue. Il n'était pas seul, il était entouré d'anges. Il y avait le Père, il y avait la parole de Dieu qui est descendue sur lui. Eh bien nous, de la même manière, il y a le Père, la parole de Dieu qui est descendue sur terre, Jésus-Christ révélé, le Saint-Esprit qui est venu nous habiter, les anges qui travaillent toujours en notre faveur. Il y a toutes ces choses. Et nous sommes des gens qui sont le peuple de Dieu, des fils et des filles, vainqueurs. Alors ici, vous avez une belle ambassade. Amen.
Amen.
Alors, travaillez comme des ambassadeurs. Œuvrez comme des ambassadeurs. Portez-vous comme des ambassadeurs. Vous êtes des gens qui n'avaient pas à avoir honte de la foi qu'ils ont, mais au contraire à être fiers. Et vous avez quelque chose à donner. Cet amour de Jésus qui a été répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Que le Seigneur nous garde chacun, qu'il nous bénisse, qu'il nous fasse du bien et que vous soyez trouvés vainqueurs dans tous vos combats de tous les jours, sur vos maisons, sur vos familles, dans vos lieux de travail et ici dans cette belle ambassade. Et quand le pasteur dit « Tiens, on va repeindre l'ambassade, quoique elle n'a pas besoin d'être peinte, celle-là », vous arrivez en courant. Quand les responsables disent « Tiens, on cherche un électricien pour refaire l'électricité de l'ambassade », vous arrivez en courant. Quand il y a des choses comme ça à faire dans la maison de Dieu, c'est un honneur. Vous savez, le ménage, souvent personne n'aime être de ménage. Oh là là. Chaque chaise, tu bénis la chaise, là, tu dis. Là, la personne qui va s'asseoir sur cette chaise, là, j'enlève la poussière. Que tout découragement s'en aille de cette personne. J'enlève tout ce qui doit être enlevé. Je mets sur cette chaise de la propreté. Seigneur, que ta gloire descende sur cette personne qui sera assise là. Et quand tu fais le ménage, je secoue la poussière. Tous les lieux où il a pu fréquenter du découragement, j'enlève cette poussière-là. Et maintenant, quand il va marcher sur ce sol qui est propre, terrain de Dieu, ambassade de Jésus-Christ, ses chaussures vont briller de la gloire de Dieu.
Amen.
J'amène le zèle de l'évangile de paix sur cette personne. Quand vous vivez le ménage comme ça, vous vivez autre chose. Hein? Les toiles d'araignée qui sont au plafond, j'enlève les toiles d'araignée. Vous savez, il y avait un frère dans une église qui disait tout le temps, après chaque culte pratiquement, « Priez pour moi les frères, parce que j'ai péché. Le diable est comme une araignée, m'a pris dans sa toile, je me suis emmêlé, je suis tombé. » Alors il priait pour lui, puis un jour il y en a un qui a dit, « Mais il y en a marre, qu'on tue l'araignée. » Quand vous faites le ménage comme ça, ça donne un autre relief. Amen. Alors, au boulot.